Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue sur Ici l'Europe, sur France 24 et RFI. L'avenir est entre vos mains, vous, les citoyens européens. C'est le titre de la conférence lancée le 9 mai, Journée de l'Europe, à Strasbourg. Cette consultation populaire pour réformer l'Union européenne va durer un an et nous recevons aujourd'hui l'un des trois coprésidents du comité exécutif, l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, actuel eurodéputé en duplex depuis les couloirs de Bruxelles.
Guy Verhofstadt, vous avez été d'abord Premier ministre de Belgique entre 1998 et 2008. C'est maintenant au Parlement européen que vous portez votre combat en faveur de la construction européenne. Vous êtes en faveur de plus de fédéralisme. Vous avez été élu pour la première fois en 2009 et depuis vous n'avez pas quitté cette enceinte. Vous êtes un libéral, membre du groupe Renew.
Alors, on a envie de vous demander, Guy Verhofstadt, on est un peu au milieu du guet en ce moment, en pleine pandémie, au démarrage de timides plans de relance, sans visibilité sur l'Europe à un an, par exemple. Pourquoi maintenant une grande consultation des citoyens européens? Est-ce que le timing est le bon?
Je pense que le timing est parfait, puisqu'on espère tous de sortir de cette pandémie. Pandémie qui a en fait démontré, encore une fois, qu'on a besoin de l'Europe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui demandent une union de santé au niveau européen, parce qu'ils ont vu les difficultés dans le cadre de cette pandémie, au début de cette pandémie, avec des États membres qui prenaient à gauche et à droite des mesures tout à fait divergentes. On a vu la même chose au début de la vaccination. Une fois que ça démarre bien, c'est au niveau européen que ça commence maintenant à démarrer bien cette opération de vaccination. Donc je crois que le Covid-19 a démontré, comme c'est le cas avec la crise financière, comme c'est le cas avec la crise migratoire, comme c'est le cas aussi avec tout ce qui se passe dans le monde, le rôle de l'Europe dans le monde, que c'est le moment ou jamais de décider quel est l'avenir de cette Union européenne et comment la réformer pour la rendre beaucoup plus efficace, c'est ce qu'on a vu dans le passé. Donc je crois que c'est vraiment le bon moment de le faire.
Alors dites-nous, le lancement de cette consultation populaire a été très solennel, avec des discours de chefs d'État et puis pas beaucoup de jeunes qui se sont exprimés. Mais alors, aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de participer à cette grande consultation, quel est le mode d'emploi? Qui peut participer et comment?
Il y a en fait deux façons de participer. Il y a tout d'abord la façon la plus facile, la plus large, c'est de s'inscrire sur la plateforme la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est très facile. Vous signez en fait le chartre du plateforme. Ça veut dire que vous êtes prêt à respecter les valeurs, les principes de l'Europe. Et puis, vous avez accès à cette plateforme. Et sur cette plateforme, vous pouvez trouver toute l'info. Vous pouvez aussi participer ou créer vous-même des débats sur l'avenir de l'Europe, sur n'importe quel aspect, je dirais, de la politique européenne. Donc ça, c'est la première façon. Et donc, la plateforme va être le lieu, je dirais, de la discussion, du débat ouvert de tous les citoyens européens sur l'avenir de l'Europe. Et va mener, naturellement, à des idées, à des conclusions. Et puis, il y a une deuxième façon de participer. Ça, ce sont les conventions citoyennes qui vont être organisées dans la deuxième partie de l'année. 4 grands rendez-vous de 200, chaque fois 200 citoyens qui vont être choisis d'une manière objective, avec beaucoup de jeunes dedans. Un tiers vont être des jeunes de moins de 25 ans. Et ces conventions citoyennes vont se tenir pendant plusieurs journées et vont mener à des recommandations et à des conclusions. Et sur base de ces recommandations et de ces conclusions, la conférence va vraiment essayer de définir des réformes pour l'avenir de l'Union qui répondent en fait directement à ces souhaits, ces recommandations.
Oui, mais justement, le précédent, c'était c'était en 2002, Guy Verhofstadt, et le projet de constitution européenne a alors avorté. Est-ce que ça n'est pas encore un énième comité Théodule où on appelle les citoyens européens à parler sans les entendre et surtout sans transcrire dans la réalité, c'est-à-dire en directive européenne bien concrète leurs demandes?
Excusez-moi, c'est en fait tout l'inverse de ce que vous dites. On a connu ça dans le passé, des dialogues avec les citoyens, le eurobaromètre, tout ça, on a connu. Et c'est justement pour casser la logique du passé, pour faire quelque chose de tout à fait nouveau. Ce sera la première fois qu'on organise vraiment une plateforme à laquelle tous les centaines de millions de citoyens européens peuvent adhérer, participer facilement, donner leur opinion. Deuxièmement, c'est la première fois, on n'a jamais fait ça, qu'on crée ces conventions citoyennes sur base de l'expérience dans d'autres pays de l'Union européenne. Et ce sera la première fois que ces représentants des citoyens vont entrer en dialogue, en discussion, en débat avec les représentants des parlements nationaux, des parlements européens, de la Commission européenne, du Conseil, des États membres, pour définir ensemble la voie à venir, la voie à suivre dans les décennies à venir avec l'Union. Parce qu'il est clair, il est évident, le monde de demain sera complètement différent du monde d'aujourd'hui. Ce sera un monde dominé par la Chine, par les États-Unis, ce vont être les Chinois, les Américains, qui vont de plus en plus décider sur notre mode de vie. Et ce qu'on veut créer avec cette conférence, c'est la réponse à la question, comment éviter cela? Nous, on a un modèle européen, nous, on aime notre vie privée, nous, on aime notre liberté, notre façon de faire, notre façon de manger, de vivre. Comment respecter ça, préserver ça dans le monde de demain? Ça ne va pas se faire avec une Union européenne qui est basée sur la règle de l'unanimité. Ça ne va pas se faire avec une Union européenne qui n'est pas compétente, par exemple, pour la santé publique et d'autres trucs important dans la vie quotidienne des gens. Ça ne va pas se faire avec une Union européenne affaiblie à nos frontières.
D'accord. Alors, c'était une initiative du président Macron, hein, le lancement de cette consultation populaire. Et il appelle les Européens à rêver. En revanche, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle souhaite que cet exercice soit concret, que les dirigeants européens se rapprochent des attentes des électeurs. Alors, c'est une initiative qui vient encore d'en haut, des dirigeants vers le bas. On a aussi le sentiment, et qu'elle a aussi pour but de favoriser les partis traditionnels européistes, comme celui d'Emmanuel Macron, évidemment, dans la perspective des élections. Est-ce qu'il y a aussi une lecture politicienne à en faire?
Mais pas du tout. Toute l'explication que vous donnez, moi, je ne l'ai pas ressentie hier, ni dans la préparation de cette conférence, les dernières semaines et les derniers mois, quand on a préparé le lancement de cette conférence. Exactement l'inverse que vous dites. Ce sont les résultats des conventions citoyennes qui vont être la base de la discussion dans la conférence dans laquelle parlements nationaux, parlement européen, le Conseil, la Commission vont être représentés ensemble avec la société civile et les représentants des conventions citoyennes. Donc, toute la mécanique qu'on a mis en place est exactement l'inverse que vous préconisez. Donc, c'est pas d'en haut vers le bas qu'on va organiser cette conférence, c'est vraiment en partant des opinions des citoyens qu'on va venir à des résultats et à des conclusions. Et c'est justement parce que ça part des citoyens, des opinions des citoyens, qu'on est sûr que les conclusions de cette conférence vont être prises au sérieux par les institutions européennes. C'est pour la première fois, ça n'a jamais été fait, que les trois institutions européennes travaillent ensemble à une conférence, à une initiative pareille. Ben, la convention, c'était une initiative... Excusez-moi, je vais terminer ma phrase, si vous voulez bien. Donc, dans le passé, avec la convention, c'était une initiative, je dirais, politique, politicienne, qui a été faite par le Conseil européen, par les États membres. Ceci est complètement différent. Et moi, j'ai confiance dans l'opinion des citoyens et dans la volonté des citoyens à participer à cet exercice.
Alors, le président Macron a rappelé le 9 mai, journée de l'Europe, lors de la cérémonie d'inauguration de votre conférence, la place essentielle de la ville de Strasbourg pour les sessions du Parlement européen. Pourtant, les 705 élus européens n'y ont pas siégé depuis plus d'un an. Alors, cette capitale européenne est-elle menacée? Céline Schmitt, notre reporter alsacienne, a enquêté.
Strasbourg, capitale de l'Europe, est un symbole. Et nous ne construisons pas d'imaginaire européen, de sentiment d'appartenance commune sans symbole.
Retourner d'urgence à Strasbourg, c'est le cri du cœur lancé par Emmanuel Macron le 9 mai. Pourtant, siège officiel du Parlement, Strasbourg voit depuis longtemps sa place contestée au profit de Bruxelles. Une bataille larvée, ravivée par une crise sanitaire qui s'allonge et que le président du Parlement européen souhaiterait apaiser.
Et la nostra casa.
C'est notre maison, nous voulons y retourner. Ce n'est pas seulement le vœu des autorités françaises. Moi aussi, je veux y retourner, en toute sécurité pour le Parlement et les Strasbourgeois, naturellement.
Fervent défenseur de Strasbourg, David Sassoli se heurte à la fronde de nombreux députés. Trop cher, trop petit, les arguments des pro-Bruxelles sont légion. Pour Daniel Freund, des Verts, sur ce combat très politique, c'est l'écologie qui doit primer.
On devrait mener, par exemple, en tant que Parlement, dans une crise climatique globale, de montrer aussi que nous, on peut réduire nos émissions, notre effet sur la planète et de ne pas maintenir de chauffer deux parlements à tout moment.
Pourtant moins énergivore, le bâtiment strasbourgeois s'est également doté d'une nouvelle extension. 15 000 m² de bureaux livrés dès septembre pour mieux accueillir les institutions européennes. Un nouvel atout, comme nous l'explique l'ancienne maire de Strasbourg, Fabienne Keller.
Non, les pro-Bruxelles n'ont plus d'arguments. Les conditions sanitaires à Strasbourg sont meilleures, bien meilleures qu'à Bruxelles. Le bâtiment et son extension sont prêtes à accueillir les débats. Voilà, il est temps que le Parlement européen se déconfine et revienne à Strasbourg.
Un retour qui pourrait se concrétiser dès le mois de juin, à l'occasion de la prochaine plénière du Parlement européen.
Guy Verhofstadt, beaucoup de vos collègues vont hésiter à revenir siéger à Strasbourg, puisqu'ils ont pu finalement ne pas faire tous ces grands déménagements mensuels depuis plus d'un an.
Je ne sais pas, il faut leur demander. Moi, je suis en train de préparer la conférence sur l'avenir de l'Union. Moi, je suis pas quelqu'un qui est, je dirais, obsédé par la question Bruxelles-Strasbourg. Je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie et dans la politique européenne qui sont beaucoup plus importantes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la première, en fait, plénière de la conférence, à laquelle vont se joindre plus tard, naturellement, aussi les représentants des conventions citoyennes, que cette plénière va avoir lieu à Strasbourg. J'espère que ce sera le cas autour du 19 juin. Et pour le reste, ce que moi j'espère, c'est que le plus vite possible, on retrouve notre manière normale de fonctionner dans le Parlement européen. Parce que c'est très difficile de vivre la démocratie européenne avec, oui, je dirais, en remote, à distance, comme c'est le cas maintenant, dans cette interview. Moi, je trouve que la vraie démocratie, c'est de se voir, c'est de s'entendre, c'est de vraiment avoir un débat entre différents points de vue, avec une présence physique, je dirais. Et ce sera le cas, je suis persuadé aussi dans le Parlement européen, dès le mois de juin. Et comme vous le savez, il y a des sessions à Strasbourg, comme il y a des mini-sessions à Bruxelles, et ce sera aussi le cas dans l'avenir.
Le président Macron appelle à une Europe plus sociale, plus souveraine. Alors c'est en partie une mutation pour ce président qui a été élu pour réaliser des réformes d'aspiration libérale. La pandémie, le temps, les idées ont changé, hein, ça balaye tous les gouvernements. C'est aussi votre vœu, une Europe plus sociale, plus souveraine ?
Moi, je ne pense pas que les opinions d'Emmanuel Macron ont changé en ce qui concerne l'Europe. Je dirais que c'est le contraire. Avec la pandémie, je crois que la conviction du président de la République est très claire. Il faut créer une Europe souveraine. Et souveraine, ça veut dire une Europe qui est capable de se défendre ou de défendre les intérêts de ses citoyens dans le monde de demain. C'est-à-dire, quand on a vu le début de la pandémie, on avait des problèmes d'avoir des masques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas une capacité industrielle assez développée en Europe. Ouais, c'est une chose qui doit être faite. La même chose avec beaucoup d'autres points qui...
Social,
en fait,
hein, il y a le mot social.
La souveraineté,
de l'Union. La souveraineté, on est d'accord.
Si demain,
le
par
social.
Exemple, il y a quelque chose qui se passe...
Guy Verhofstadt, le social, ça vous interpelle
écoute,
plus comme libéral.
Écoute, je suis en train d'expliquer la souveraineté et dans la deuxième partie de ma réponse, je viens au social. Je pense pas que c'est le journaliste qui va me dire ce que je dois répondre ou bien c'est peut-être vous qui devez se mettre devant la caméra et moi derrière. Ce serait peut-être pas mal.
Allez-y, on vous écoute sur le
l'avenir.
Social.
Merci. En ce qui concerne la souveraineté, il y a pas mal de choses à faire au niveau industriel, mais aussi au niveau, par exemple, politique. Le rôle géopolitique, la fin de l'unanimité. Et au niveau social, il est devenu clair, avec la pandémie, que des mesures au niveau social sont nécessaires. Et une des dernières initiatives qui a été prise dans la bonne direction par la Commission européenne, c'est l'idée de garantir un revenu et un salaire minimal décent partout dans l'Union européenne, qui est vue par la plupart des économistes aujourd'hui comme un bon point de départ pour la reprise économique après la pandémie.
Alors, la Banque centrale européenne estime que le retour au niveau de richesse de 2019 ne se fera pas avant 2022. Pour l'emploi 2023, l'Europe sera bonne dernière de cette reprise, alors que la Chine et les États-Unis font la course en tête, vous le rappeliez d'ailleurs. C'est pas vraiment une preuve de l'efficacité de nos démocraties à 27?
Mais c'est la preuve qu'il faut faire des choses au niveau européen. Par exemple, la reprise américaine est basée sur quoi? Elle est basée sur un plan de relance de plus de 1 800 à 1 900 milliards de dollars. Et donc, ce que nous avons fait et ce que nous réclamons, c'est de faire exactement la même chose au niveau européen. Pour cela, il y a la Banque Centrale Européenne qui a pris des initiatives. Pour cela, on a créé pour la première fois, on n'a jamais fait ça après la crise financière, il y a 10 ans, pour la première fois, on va créer un fonds de 750 milliards d'euros qui, selon moi, doit être répété aussi dans l'avenir. C'est pas une fois qu'on peut faire 750 milliards d'euros. Et comment ça sera fait? On va emprunter sur les marchés, on va créer des obligations européennes, et avec cet argent, on va investir dans l'avenir, dans le digital, dans le changement climatique en Europe. Et ce sera financé, pas par des impôts payés par les citoyens européens, mais par exemple, par une taxe qui va être payée par les grands géants de la numérique américains, ou par exemple, par une taxe sur l'importation de biens qui sont nocifs pour notre environnement et qui, jusqu'ici, en fait, perturbent nos stratégies en ce qui concerne le changement climatique. Donc ça, c'est une nouveauté. On n'a jamais fait ça dans le passé. Et pour, en fait, faire aussi bien, je dirais, que les Américains ou que les Chinois, je pense que ce sera nécessaire de répéter aussi dans les années à venir, successivement, des programmes d'investissement au niveau européen de 750 milliards. Si on fait ça 3 fois, alors on sera à jeu égal avec les Américains, et c'est ça qu'il faut, qui doit être notre ambition.
Alors, il n'y a pas que dans l'économie que les Américains vont très très vite. Joe Biden a pris les Européens de court, et même on peut dire qu'il les a pris au piège en se prononçant pour la levée des brevets sur les vaccins, y compris les brevets américains, pour l'ensemble de la planète. Alors, on a beaucoup de mal à expliquer aujourd'hui pourquoi certains pays, comme l'Allemagne, sont contre. Quelle est votre position? Comment l'Europe doit réagir face à
ces positions? C'est une question qu'il faut poser aux Allemands, pas à moi, parce que moi, personnellement, c'est mon opinion personnelle, moi, je suis en faveur de lever cette protection. Moi, je pense que dans un premier temps qu'on a connu maintenant, c'est normal que ceux qui inventent ces vaccins, ces médicaments, sont remboursés pour tous les efforts qu'ils ont faits. Mais je suis persuadé qu'après un certain temps, comme c'est le cas maintenant, il faut lever cette protection, parce qu'une pandémie de telle ampleur nécessite en fait la production d'une manière aisée dans toutes les parties du monde, et pas une production, je dirais, théorique qui est limitée à l'Europe ou aux États-Unis, aux producteurs dans l'Union européenne ou aux États-Unis.
Guy Verhofstadt, merci d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle donc à nos auditeurs, si vous voulez participer à cette consultation populaire, eh bien c'est sur la plateforme L'avenir est entre vos mains. Bonne journée à tous, à très bientôt.
La marche du monde.